Bonjour
madame.
Oui.
Bonjour.
Ça monsieur. Va. Vous avez les cloches rivelles?
Ben oui, même de Salabre, j'en ai.
Ah, vous en avez.
Mais ici, il y avait un Roland aussi qui en faisait.
Et vous l'avez connu, vous, Rive, quand il faisait les cloches?
Oui.
Ouais.
Oui.
Il a arrêté en quelle année?
Mais vous avez sa fille, Mimi Rive.
Vous voyez la fenêtre en face, la
oui.
maison en face, et bien c'est là.
C'est là.
Vous tapez. Et...
On va demander, d'accord. Ben merci.
D'accord. Ben, merci beaucoup.
Bon, écoute, on ne fera plus, on ne sait jamais. Bonjour madame.
Bonjour messieurs dames.
On m'a dit que vous étiez madame Rive.
Oui.
Et nous on est venus parce qu'on est passionnés par les cloches.
Oui.
Et on voulait savoir un peu...
rentrer.
Oh bah c'est
mais
formidable.
Je veux pas vous, je pourrais pas vous dire grand chose.
Bah déjà si vous pouvez nous dire à quel moment ça s'est fini, tout ça quoi. En voilà une belle tiens.
Oui parce que vous savez, bon moi j'ai comme... J'étais une fille, les cloches ça m'intéressait pas. Mais j'ai des articles là.
Vous êtes la fille de monsieur Rive ?
Oui.
Qui faisait les cloches ?
Qui faisait les cloches, oui. C'est mon arrière-arrière-grand-père qui avait fondé l'atelier de fabrication des cloches. Puis après, c'est mon grand-père qui a pris la suite. Et ensuite, c'est mon père et son frère qui ont continué la fabrication. Mais bon, c'était tout à fait artisanal. Hein. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup de gens qui venaient parce qu'ils étaient très connus. Il y avait des troupeaux qui passaient au fond du village, là. Et alors, à ce moment-là, les bergers achetaient beaucoup de cloches. Il y avait même, ils en envoyaient même en Espagne.
Ils ont arrêté quand ?
En 1953. En plus, ils avaient une petite propriété agricole. Ils faisaient l'agriculture et ils faisaient en même temps la fabrication des cloches. Et puis, bon, c'était plus rentable après. Comme c'était très artisanal, c'était plus rentable du tout.
Ils étaient plusieurs à le faire ?
Non, ils n'étaient que tous les deux. Les deux frères, là. Les deux frères.
Leur prénom, c'était ?
C'était, alors ça,
oh, la
c'était...
photo. Ah oui, oulala.
Alors voilà, ça c'était l'atelier qui existe encore, hein, mais bon, là maintenant, la maison est louée. Et l'atelier, donc, il est fermé, on ne peut pas...
Dedans, il n'y a plus rien.
Il n'y a que le four. Et j'ai donné beaucoup de choses au musée de Puyvert.
Et les cloches qui sont au musée de Puyvert, ça venait d'ici.
Oui, oui, oui.
Même les sonailles comme
voilà,
ça.
Voilà, comme ça. Ça. Voilà, ils faisaient des sonailles comme ça, en tôle. Et puis, ils faisaient des cloches...
Ils faisaient aussi des cloches...
En bronze.
Ouais, comme celles que vous avez là, comme
voilà,
la grosse que vous
voilà.
avez
l'air. Et... Oui, oui. Il y avait plusieurs fabricants de cloches. Il y avait une autre famille aussi qui s'appelait Rive, qui était à la fondation là. Mais à l'époque, le village était... Il y avait beaucoup d'artisans dans le village. Hein.
C'est étonnant.
Il y en a beaucoup de familles Rive ici. Hein.
Oui.
C'est un nom de Rivet. Il y avait un monsieur aussi qui était taillandier à l'époque, qui faisait des faucilles aussi. Qui s'appelait Rive aussi.
Alors, redites-moi les prénoms, donc comment ils s'appelaient ?
Alors, ça c'est mon père, hein, qui s'appelait Désiré Rive. Et ça, c'est mon oncle, c'est son frère, hein, Gaston.
Oui, sur son banc.
Il est en train de marteler les cloches. Les...
Sur le banc. C'est peut-être voilà. Celui qui est au musée, d'ailleurs.
Peut-être, oui.
Ah, ouais,
je crois que c'est
ah,
cette
oui.
photo qui est au
ouais,
musée.
Ils ont bien mis en valeur au musée. Hein.
Oui, oui, oui.
Et il est mort à quel âge, votre père ?
Mon père est mort, il avait 79 ans. Il est mort en 83.
Ça vient de chez eux aussi.
Oui.
Des petites
cloches. Oui, 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 d'accord. Ça vient de chez eux. Et ils faisaient aussi des grosses cloches pour les gares aussi.
Ah, comme il y a au musée, celle qui est au musée,
oui,
c'est ça.
Oui, voilà, oui, oui, oui.
Ah, ils fondaient quand même des grosses.
Et ça, c'était pour les gares. C'était des cloches. Ça aussi.
Petit sonnaillon pour chien.
Oui.
Tiens, prends-la celle-là. C'est un sonnaillon pour chien, ça, comme ça, on s'en rappellera. Quand on les trouve. Parce que des fois, on voit passer des cloches.
Oui.
On ne sait pas de qui elles sont.
Et oui, oui, oui.
Et donc le battant, ça c'est original, d'accord. Parce que souvent, on trouve plus de battant comme ça.
Ils mettent des boulons, des choses comme
ah,
ça.
Ah oui, 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 ça c'est le vrai battant. Ces seaux-là qui sont, ils doivent représenter des têtes. Une tête de lion ou d'animal fantastique.
Mais après, là on les voit plus parce qu'elles
ben
sont
non,
usées.
Non, parce qu'à force, c'est usé, oui. Voilà.
Ils vendaient comment? Comme ça? D'ici, alors, comme ça, ou ils avaient un catalogue?
Ils allaient aux foires. Et moi, je me rappelle, étant enfant, ils partaient à bicyclette. Alors, ils faisaient des sacs, des grands sacs de cloches, des sacs en jute. Hein. Ils mettaient les sacs sur la bicyclette et ils allaient faire les foires aux alentours, quoi. Et puis, il y avait des gens qui venaient quand même acheter à l'atelier, là. Mais bon, ils allaient surtout faire des foires, quand même. Hein. C'était pénible.
Ça devait être beaucoup pour les bergers qui montaient sur l'Ariège et tout ça?
Oui. À Rivel, il y avait une foire au mois de novembre qui était très importante. Et c'était la foire de Sainte-Cécile. Et il y avait des Espagnols qui venaient à travers la montagne, qui venaient pour acheter surtout des chevaux, qui venaient pour acheter... Et en même temps, ils achetaient des cloches.
À Sainte-Cécile.
Alors, c'était, oui, c'était la fête du village. Et qui durait trois, quatre jours... C'était très très important. Hein. Il y avait beaucoup d'animaux, il y avait dans toutes les rues. Il y avait...
C'est incroyable hein,
ah,
quand
oui.
on voit le village aujourd'hui.
Ah, mais vous savez qu'à l'époque, on avait fait une étude sur une exposition une fois sur la guerre de 14 hein, et on avait fait beaucoup de recherches. Et à l'époque, il y avait 700 habitants dans le village et il y a eu jusqu'à 1100 habitants. Il y avait des artisans qui fabriquaient, on disait ça, l'aïsémals. C'est-à-dire, c'était les grosses comportes qui servaient pour les vendanges. Donc ça se fabriquait à Rivel, ça se fabriquait dans le village. Et des petites industries de peigne en bois. Il y avait deux usines de peigne en bois. Il y avait un monsieur taillandier qui faisait les faucilles, en même temps qu'il était maréchal ferrant.
Et l'autre famille, Rive, qui faisait des cloches aussi, il les marquait comment, les cloches?
Ah, c'était pas la même, je sais pas comment il les marquait.
Oui, on reconnaissait.
Oui.
Les vôtres, elles ont ça derrière?
Oui, et ben c'est la fabrication.
Votre fabricant.
Ça, c'est la marque, oui, qui mettait certainement... Moi, je ne m'y intéressais pas beaucoup à l'époque.
Oui.
Et c'est dommage.
Et vous avez fait quoi comme métier?
Alors, moi, j'étais dans la finance. J'avais passé le concours au ministère des Finances, dans le Trésor public. Et donc, je suis allée travailler 12 ans à Paris. Et puis après, je suis revenue ici. Alors donc, là, j'ai travaillé à Toulouse. Et après, quand j'ai pris la retraite, je suis revenue dans la maison familiale. Mais quand même, j'ai quand même un petit pied-à-terre à Toulouse. Et là, on a créé une association sur le patrimoine du village. Donc, on est en train de restaurer une chapelle.
Mais le four, s'il reste quelque chose, ça, c'est du patrimoine quand même. Hein. C'est important parce que...
Et oui.
Et ça, c'est un livre qui s'appelle Le Livre de la
Terre. Le Livre de la Terre privilégiée, qui a été écrit en 1872 par un monsieur de Rivel qui s'appelait Casimir Pons.
Et ce livre a été fait sur souscription.
Oui, oui, très les souscripteurs. Oui, oui. Des notaires, des avocats,
des célébrités.
Des célébrités, oui. Lieu des rues à Paris, voilà.
Jean Rive, maître esquilier. Donc, c'était...
Alors Jean Rive, oui, c'était... Ça, c'était pas de ma famille,
ah,
ça.
Ah d'accord, non. C'était l'autre famille.
Ça, c'était l'autre famille. Rive Basile, ça, c'était celui qui était taillandier, qui fabriquait des serpes, des faux... Des...
Et c'était votre famille?
Non, ça, c'était non. Pas la même famille. Oui, il y en a des Rives. Ah, non, non, mais ça, c'était oui. Pas la même famille. Rive-Pierre, voilà, c'est ça.
Fondeur
à Rivel.
D'accord.
Voilà. Rive-Pierre, propriétaire à Rivel. Mais souvent, ils avaient les mêmes prénoms. Alors,
oui.
Ça, c'est ma famille. Rive-Pierre, fondeur et propriétaire à Rivel. Voilà. D'accord. Et après, il y avait la famille Roland aussi. Joseph, ancien maire. Roland Auguste...
C'est une dynastie de mères, les Romains.
Oui,
les Roland, ils sont tous anciens maires.
Ancien maire. Roland Jean, c'est Malier. Non, mais c'était une famille de fabricants de cloches aussi, les Roland. Et je me rappelle, moi étant enfant, on allait voir, ils mettaient les moules au soleil contre la maison en face, là, pour faire sécher.
Et l'argile, ils allaient chercher à côté où, ça?
Alors l'argile, oui, ils allaient la chercher. On appelle ça la terre rouge. Ils avaient un petit lopin de terre qu'ils avaient acheté là. Vous continuez la route là, vous arrivez à un hameau qui s'appelle la Calmette. Et tout en continuant, on le voit, la terre est un petit peu rouge. Et ils allaient chercher la terre là.
Pour faire les cloches en bronze, il faut un sable. Oui. Donc là, ils allaient chercher du sable, ils devaient avoir un endroit secret, parce que ça, ils ne le disent à personne quand ils avaient un super sable.
Je ne sais pas.
Vous ne vous souvenez pas. Ça peut être un sable noir, souvent.
Je ne sais pas du tout.
Il faut que ce soit un sable très fin.
Très fin, oui.
Et quand ils ont le filon, ça, c'est le grand secret. Parce que l'histoire du bronze qu'ils mettent dedans et tout, c'est de la foutaise, parce qu'ils font tous pareil.
Oui.
Mais le sable, eux, ils savent où il est.
Ils mélangeaient du cuivre aussi, ils ont fondu, maman me disait qu'ils achetaient des objets en cuivre et qu'ils ont fondu beaucoup, beaucoup de cuivre. Hein. Des chandeliers, des calés qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'était un peu comme des lampes à huile. Maman me disait qu'ils en avaient fondu, mais alors des quantités de cuivre.
Au niveau des relations entre les esquiliers, il y avait... Pas de problème de concurrence,
non.
Tout ça.
Non. En principe, moi, je n'ai pas le souvenir qu'il y avait des rivalités entre...
Peut-être qu'il y avait le marché pour tout le monde et il y avait de
Parce qu'après, vendre. Moi, c'était... Ma famille a été la dernière. Les autres ont arrêté beaucoup plus tôt.
Le four, c'était au charbon?
Oui.
D'accord.
Il y a même le soufflet. Le soufflet, moi, je me rappelle quand ils actionnaient le soufflet...
Le charbon, il faisait venir de loin ou il y en avait dans le coin?
Je sais pas.
Il n'y a pas de mine de charbon par là.
Oh non. Je ne sais pas d'où il venait le charbon. Mais
bon, c'était encore une époque où il y avait beaucoup de troupeaux.
Oui, les troupeaux passaient là. Et alors là, c'était là, la vente. Ils vendaient beaucoup hein, là, pour les troupeaux. J'en avais des documents. Je vais vous donner ça si vous voulez. Parce que j'en ai. Ce sont des factures.
Ben merci. Ça, c'est la facture, c'est pas le catalogue.
Le catalogue, je l'ai aussi, le catalogue.
Ils avaient un catalogue?
Oui, avec les différentes tailles de...
Vous l'avez?
Je sais pas où je l'ai.
Ah! Et parce que le catalogue, il l'envoyait, comment ça se passait?
Oui.
Vous savez pas. Parce que souvent, ils avaient des catalogues pour vendre par correspondance.
Et je le revois bien, et il était bleu, ce catalogue.
Ils faisaient des grelots aussi?
Oui, des grelots pour les colliers.
D'accord.
Oui, il n'y avait pas de chevaux ici. C'était surtout des bœufs, des vaches. Ils achetaient les crelots pour mettre autour des colliers. C'était surtout du côté du Carcassonnet. Et des crelots, je sais qu'ils en faisaient parce que j'en ai retrouvé dans l'atelier.
C'est dommage que vous n'ayez pas le catalogue. C'est dommage que ça aurait été formidable. Ouais.
Le catalogue, je ne l'ai pas.
Voilà.
Je l'ai, oui. Oui, il y a la taille. Il y avait les prix.
Quand on voit ce qu'ils vendaient... On voit qu'ils n'étaient pas riches quand même. Hein.
Je sais pas.
Ça se vendait pas cher. Hein.
Je sais pas combien. Alors, ça c'était... Ça,
avec c'était... des vaches.
Ce sont des bœufs.
Ce sont des bœufs.
Ça c'est mon père et ça c'est mon oncle. Vous voyez là sur la route, il y a une maison là, avec l'escalier là. Et l'atelier Roland, c'était la maison à côté. C'est tombé à un moment donné, ça s'est écroulé. Et il y a le monument aux morts là maintenant.
Mais il ne faisait pas que des cloches, il était peut-être fondeur d'autre chose, non?
Non, Roland, je ne crois pas, non.
Ah bon, il ne faisait que des cloches?
Il ne faisait que des cloches.
Parce que parfois, les fondeurs, ils faisaient des chandeliers, des choses comme ça.
Ah non, ici, ça ne se faisait pas. Hein.
Ah non. Donc, ils étaient l'un à côté de l'autre. Dans votre famille, vous savez où ils avaient appris au début? Roland, il était plus ancien, non?
Oui. Roland était plus ancien. Alors, attendez, sur ce document-là, ça, c'est un... le Midi Libre qui avait fait, c'est un journal local, qui avait fait un reportage en août 65. Ça a été fait en deux fois. Ça, c'est le 22 août et celui-là, c'est du 23. En Irène à la Fière au Déribeil et pour ta reine une oseille sur la punte del couteil. Bon, ça, c'est une... Alors, cette phrase a souvent bercé notre enfance et nous avons entendu de vieilles grand-mères autour d'un berceau pour endormir le bébé. Une autre phrase, ou plutôt une appellation, Ribeil de las Esqueios, a aiguillé notre curiosité vers cette plaisante localité que Casimir Pont a si bien retracée dans son ouvrage La Terre privilégiée, terre qui a été le berceau du chanoine Salvat, le fait libre bien connu. Et là, nous avons retrouvé les fameuses Esqueios qui, malheureusement, ne fabrique plus que ces fameuses esquilles qui ont longtemps fait la réputation du Rivel, jusqu'à lui donner ce joli surnom de Rivel de las Esquellos. Jamais deux Esquellos de même son. L'Esquello est le nom donné aux cloches qu'on suspendait au cou des vaches, des bovins ou des bêtes à cornes pour que le berger puisse les reconnaître de loin lorsqu'elles s'égaraient. Des fabricants s'étaient spécialisés pour faire des Esquellos à Rivel. Et ces Esquellos étaient d'une grande réputation car leur métal cuivré donnait une extraordinaire sonorité. De plus, on n'a jamais retrouvé deux Esquellos donnant le même son. Toutefois, ayant un son différent, le berger pouvait reconnaître au son de la cloche quelle était la bête égarée. D'ailleurs, sur les foires, les bergers ne voulaient aucune autre Esquello que celle de Rivel. Et sur le champ de foire, on voyait souvent deux bergers. L'un agitait la cloche et l'autre, à distance, tendait l'oreille pour écouter le son et choisir l'esquille qui convenait le mieux. Outre leur bel aspect, leur beau métal cuivré et leur extraordinaire sonorité qui les faisait appeler des clarines, les esquilles de Rivel avaient une autre particularité et elles étaient fabriquées selon un procédé remontant à la plus haute antiquité. Hélas, aujourd'hui, les esquilliers ne fabriquent plus de cloches. Ils ont abandonné le métier et leurs esquillos sont devenus maintenant objets de musée ou de décoration des demeures rustiques. Aussi, notre plaisir a été d'autant plus grand de rencontrer, mais ça c'est le journaliste qui écrit, de rencontrer à Rivel les derniers esquilliers, les frères Gaston et Désiré Rive, ainsi que leur cousin Jean Rive. Voilà, alors leur cousin Jean Rive, c'était lui.
Il était aussi.
Oui, mais il n'a pas fabriqué des cloches longtemps. D'accord. Parce qu'après, il explique, il est parti après en ville.
Mais c'est l'autre famille Rive,
oui,
finalement.
Ça, c'est
donc c'est aussi des cousins.
Oui, c'est des cousins éloignés.
Éloignés.
Des cousins éloignés. Monsieur Jean Rive interrompit la fabrication en 1913 pour partir à Marseille et se lancer dans le commerce. Autrefois, nous a-t-il expliqué, une loi faisait obligation à chaque bête entrant dans une propriété de l'État, c'est-à-dire dans les terrains domaniaux, de porter une clochette. Cette loi fut supprimée et porta un rude coup à l'industrie des esquillos. Et M. Jean Rive poursuivit, la fabrication des cloches ralentissant, j'ai suivi le mouvement de l'époque qui dure encore. J'abandonne la campagne pour créer une situation meilleure par ailleurs. Mais je pense qu'il est possible de se faire une aussi bonne situation dans les pays où l'on se trouve. Comme preuve, j'y suis revenu. Ensuite, il est revenu et puis il a ouvert un café à Chalambre.
En 65, ils expliquent que c'est fini. Alors voilà. Qu'il y a quand même des gens qui ont fabriqué jusqu'en 95.
Oui, oui.
Mais ah, dans les roues. Ici, de toutes parts, on les sollicite pour qu'ils reprennent leur fabrication. Leurs anciens clients ne cesse de les relancer et ils voudraient bien des cloches de Rivel. Mais les frères Rive, approchant l'âge et la retraite, préfèrent ne pas continuer. Avec eux, nous avons accompli un pèlerinage dans leurs vieux ateliers. Bon, une toiture basse, un vieux portail ouvert au prix de quelques efforts. Et nous avons pénétré dans le sanctuaire du métal. C'est là que leur père, M. Baptiste Rive, entre deux coups de marteau ou devant le four entrouvert, leur confiait les secrets de fabrication. Ça, c'est leur père, hein, donc c'est mon grand-père, mais qui avait appris, lui, par son père. Et puis, je crois que ça remonte encore plus loin. Et en effet, cette fabrication, qui remontait à la plus haute antiquité, se transmettait de père en fils. Et les jeunes apprenaient... Les tours, c'est un peu jauni. Les jeunes apprenaient les tours de main. Quand un aïeul mourait, la relève était assurée. Alors, d'abord, le bronze. Les frères Rive nous ont d'abord fait voir un premier atelier où l'on fondait les clochettes en bronze. Ce n'est pas sans un serment de cœur que nous avons... C'est ça, les clochettes en bronze, hein, que nous avons vu des fagots empilés sur la cheminée et le four où l'on fondait le bronze. Les roulants de Rivel excellaient pour la fabrication des clochettes en bronze. Ils fondaient du cuivre, de l'étain et ajoutaient parfois de l'argent, ce qui donnait une incomparable sonorité. Mais la clochette en bronze n'était pas tout à fait la spécialité riveloise, car on avait recours au procédé classique de la fonderie. Pour cette fabrication, on utilisait de longues caissettes en bois à jeu de couvercle démontable. Ces caissettes mesuraient 1,20 m de long et servaient à faire les moules. On y plaçait les modèles ou formes au nombre de 8 à 12 selon la grosseur. On comblait de terre ou de sable de fonderie. Puis on retournait les caisses, on plaçait la tâche du battant, on comblait l'intérieur du moule avec du sable de fonderie. Nouveau retournement, on enlevait les modèles qui laissaient un vide dans lequel on faisait couler du bronze en fusion, mélange de cuivre rouge et d'étain qui épousait la forme de la clochette. Il ne restait plus qu'à dégager selon les principes de la fonderie. Les frères Gaston et Désiré Rive fabriquaient des clochettes en bronze. Ils faisaient aussi les gros grelots que les charretiers attachaient au harnais. Ces gros grelots en bronze portaient le nom de couscous. Les différentes formes de cloches en tôle avaient des noms différents. Les frères Gaston et Désiré Rive montrent quelques types d'esquillos. Alors, de gauche à droite, celle-ci, qui est un petit peu bombée, s'appelle un bourrumbil. Après, il y a une carado qui est plus carrée, une omijano et un petit bourrumbil. Et c'est indarelos. Ils en faisaient plusieurs catégories qui se distinguaient par leur forme et leur grosseur. Chaque catégorie offrait une gamme de grosseurs auxquelles était affecté un numéro. Parmi les différentes catégories, on peut citer le bourrumbil, qui se reconnaissait par la forme bombée et dont les grosseurs allaient du numéro 1 au numéro 8. La carrado, de forme assez carrée, de 1 à 12. La sunetto lungo, de 1 à 8. La tindarello, ils disent, elle n'avait pas de rebord. Celle-ci, elle s'était bordée. Et celle-là, là, la tindarello, elle n'avait pas de rebord.
Ce qui est très intéressant dans ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, Rive à Rivel est complètement oublié pour tout ce qui est les cloches en tôle. On se rappelle surtout des cloches en bronze.
En bronze.
Les cloches en tôle, on n'arrive pas à les identifier parce que tous les fabricants, ils faisaient à peu près les mêmes modèles.
Et mais je crois quand même que sur les cloches en tôle, ils mettaient une marque. Oui.
Au musée, il n'y a pas de marque sur les cloches en tôle.
Est-ce que c'est vraiment la vraie cloche? Est-ce que ce ne sont pas des modèles, ça? Quand ils ont arrêté leur fabrication, il n'y avait pas tellement de cloches. Il y avait surtout beaucoup de modèles. Les modèles n'étaient pas marqués. Les frères Gaston et Désiré Rive approvisionnaient toute la région, toute la zone pyrénéenne, notamment la zone de Montlouis. Ils expédiaient aussi en Espagne, où ils avaient de gros clients, particulièrement Huesca, Lérida et Bossos. Ils avaient plus de travail qu'ils ne pouvaient faire. Parfois, ils se levaient à 3h du matin pour le travail au four. C'était extrêmement pénible. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont cessé leur fabrication, une fabrication reposant sur des secrets qu'ils nous ont confiés. Alors, la matière première consistait en feuilles de tôle noires de 1,50 m sur 1,80 m qu'ils faisaient venir de Toulouse. Première opération, le découpage de la tôle à la cisaille. Seconde opération, on frappait la tôle pour y imprimer des pouets, parfois un cœur et la marque de fabrique, Rive à Rivel. Vous voyez, elles sont marquées aussi, les tôles, les cloches en tôle. Avec une tête de lion qui était en quelque sorte le label de la garantie. Puis l'esquiller pliait la tôle autour d'un fer recourbé monté sur un banc appelé bigorne. Et avec le marteau, il donnait la forme voulue et les bombait même pour faire des bourrumbils. Une fois que l'esquillo était prête, on plaçait l'anse attache du battant à l'intérieur et le rebord. Tout cela s'effectuait au marteau. Et on arrivait à l'opération capitale. On pétrissait de la terre glaise mélangée avec des vannes. On appelait ça en patois en occitan des abets. On enveloppait la cloche en tôle avec du papier. On étalait la pâte de la glaise et des vannes. Après avoir parsemé la surface de laiton, on enveloppait avec cette pâte la cloche déjà habillée de papier. On procédait d'une façon identique pour l'intérieur de la cloche. Cela donnait en quelque sorte une statigraphie, tôle, papier, cuivre et glaise. La motte dans laquelle on avait aménagé un petit trou était exposée au soleil, je me rappelle bien moi, au soleil pour séchage. sur le mur en face, il y avait toutes les cloches alignées et tous les enfants venaient voir. C'était l'attraction. On appelait cela la coito ou la cuite. Quand la cuite était bien sèche, on passait alors la motte dans un four chauffé au charbon de bois. Jadis, le foyer était activé au soufflet de forge, actionné à bras. Actionné à bras. Mais depuis quelques années, les frères Rive s'étaient équipés d'un ventilateur électrique, seul modernisme qu'ils avaient apporté à la fabrication. Au four, nous a dit M. Jean Rive, la température atteignait plus de 1100 degrés. Le papier se consumait et laissait un vide entre la tôle et la glaise creusée. Ensuite, c'est-à-dire dans le vide, le cuivre se fondait et devenait très fluide. Le cuivre en trop s'écoulait par le petit trou aménagé à la motte. On sortait la motte du four à l'aide de l'escouladou, sorte de petite pelle ronde à longue manche. À propos de cette opération, M. Jean Rive nous a donné l'explication scientifique. À cette température, plus de 1100 degrés, la tôle fondrait, ce qui ne se produisait pas parce qu'elles étaient dans un vase clos à l'abri de l'air et de l'oxygène. Mais à cette température, le cuivre, devenu très fluide, pénétrait dans le fer qui, lui, était devenu spongieux. Le brassage se faisait par la minceur de la tôle et le contact avec l'acide carbonique dégagé par le charbon de bois. Cette tôle en fer était transformée en acier imprégné de cuivre, ce qui lui donnait une sonorité. Après avoir sorti la motte du four, on la laissait refroidir à température convenable, environ 250 degrés, métal rouge. Et alors, on la trempait dans l'eau, on brisait la motte pour retirer alors la cloche. Par l'ensemble des opérations selon cette méthode qui relevait plutôt du tour de main, on comprend que rien de bien symétrique ne pouvait être obtenu. C'est ce qui explique la différence de son d'une cloche à l'autre. Ultime opération, en martelant le rebord du bas de la cloche, on modifiait aussi le son. Ceci s'effectuait à l'oreille du fabricant. Le son dépendait à la fois de la dimension, de la forme des cloches, de l'épaisseur du métal, de la quantité de cuivre absorbé durant le passage au four, du trempage et du martelage du rebord. Ils ont arrêté depuis 12 ans. Donc ça ferait 53,
c'est ça.
Et la maison qui est à côté de l'atelier, elle a été brûlée cette maison. Et c'était une grange qui était pleine de foin. Et une nuit, cette grange a brûlé. La maison a été en partie détruite. Et c'est là, en fouillant, qu'il y avait un bureau et que j'ai trouvé pas mal de documents que j'ai récupérés. Mais c'était tout en vrac. Mais à l'époque, il n'y avait pas les pompiers. Et maman me racontait qu'elle se rappelle que les gens faisaient la queue avec des seaux et que ça avait brûlé, que ça avait fumé pendant des jours et des jours. Donc c'était... Et donc après, cette maison est restée inhabitée et en l'état, bon, elle était en mauvais état, bien sûr. Et quand j'étais enfant, bon, on allait, quand ils faisaient les cuirs, là, il fallait surveiller tout le temps. Et alors on prenait le repas d'ici et on allait manger dans cette maison. Et moi, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Cette maison, c'était un mystère, quoi, pour moi. Et je fouillais dans les pièces.
Mais votre père s'en servait de bureau, alors?
Oh, c'était un bureau, un petit bureau un peu comme ça, vous voyez, où il mettait des affaires dedans, quoi. Mais c'était surtout mon grand-père. Parce qu'après, mon père et mon oncle, après, habitaient ici, quoi. Ils habitaient dans cette maison.
C'était votre père qui faisait aussi la comptabilité, les papiers, tout ça, non? Votre mère, elle participait à...
Non, mais il n'y avait pas de comptabilité.
Non. Il fallait faire des factures, tout ça?
Oui, il fallait faire des factures, sûrement.
Votre mère, elle participait?
Non, maman ne participait pas. Non, ma mère, elle ne s'occupait pas de l'atelier des cloches. Hein. C'était mon oncle et ma mère s'occupait de la maison. Et puis, elle aidait un peu à travailler les champs. En plus de l'artisanat des cloches, ils avaient une petite propriété.
Ils avaient des vaches?
Des bœufs, surtout des bœufs, oui. On travaillait beaucoup, ici on travaillait beaucoup avec les bœufs.
Et vous cultiviez quoi?
Il y avait du maïs, des céréales,
d'accord.
Il y avait le blé, l'avoine, l'orge.
C'était pas la vigne?
Non, ici il y en a eu un peu de vigne, mais ça a été après arraché. Mais non, c'était pas la vigne. Ici, c'est trop froid. Ils vivotaient à l'époque, hein, et c'était des petits agriculteurs qui vivotaient. Oui. Et puis qui faisaient, on faisait un peu d'élevage, on avait une basse cour, un peu pour la consommation.
Personnel.
Mais je me rappelle quand même qu'on vendait du blé, qu'on allait porter à la coopérative à Chalambre. C'était des petites exploitations. C'était, oui. À l'époque, il y avait je ne sais pas combien d'exploitants agricoles, hein, des petites exploitations. Puis petit à petit, tout a disparu. Et tous les petits lopins de terre étaient cultivés. Et d'ailleurs, j'ai des cartes postales, moi, du village, où on voit en face, c'était des champs. Petits champs, des petits lopins. Et moi, je me rappelle que certaines femmes qui avaient des petits lopins un peu qui en pente et tout ça, elles mettaient le fourrage et puis elles le transportaient sur le dos, elles le descendaient sur le
C'était
dos.
C'était des gros morceaux de tissu qu'on nouait.
Qu'on nouait, voilà. Points, là, on appelait ça, ici, on appelait ça les bourrasses. Maintenant, il y a un, deux, et puis dans les écarts, trois gros agriculteurs.
Et puis le paysage s'est fermé.
Et le paysage a beaucoup changé. Ah oui.
Beaucoup d'arbres. Hein? Beaucoup d'arbres maintenant.
Eh oui, tous les arbres, oui. D'ailleurs là on le voit. Hein. Avant c'était tout des petits champs, des petits lopins de terre. C'était tout cultivé. Je ne sais pas si je dessine ces cartes postales. C'est celle-ci, hein, ces deux cartes-là où on voit la modification du paysage. Hein.
Ce qui est incroyable, c'est qu'avec toutes les cloches qu'ils faisaient, ils étaient quand même obligés de faire l'agriculture.
Ah oui,
pour qu'ils ne les vendaient pas assez.
Oui, pour en vivre.